Merci, bienvenue à toutes et à tous à cette grande table d'été. Comment avancer quand l'histoire laisse des traces, trop de traces, quand l'histoire continue à travers les lieux, les hommes et les filiations de se transmettre tel un poison, quand le présent est plein du passé? Et s'il suffisait alors de faire de l'histoire une histoire, singulière, un récit, d'en raconter la texture, d'en trouver les mots pour nous rendre plus présents? C'est ce que nous tenterons de faire aujourd'hui, traverser l'histoire par des récits, deux récits, celui en seconde partie d'Emmanuel Caron qui publie son premier roman aux éditions Grasset, « Tous les âges me diront bienheureuse » ou l'histoire d'une lignée de femmes puissantes, et dès maintenant avec Jean-Gabriel Perriot à qui l'on doit le très beau film « Lumière d'été » qui sort ce mercredi 16 août sur vos écrans. Bonjour et bienvenue.
なんか落ち着かん様子じゃねえ。ご家族に会いに来ちゃってんですか。いやいや、仕事ですよ、仕事。監督ですか。来て。仕事ちょっと出た。はいよ。どこ行くの。でも家族なんていうのはさ、何度だって
こしらえることができる。ここで起きたことを知っとってなかった。
被爆者って誰のこと？
被爆者言うたらの原爆に応対したのことを言うんで。
Jean-Gabriel Perriot, on vient d'entendre la bande-annonce de Lumière d'été. Lumière d'été, votre film raconte la journée passée entre Akihiro, réalisateur d'origine japonaise, venu à Hiroshima rencontrer des survivants de la bombe atomique pour un documentaire, et Michiko, jeune femme, gaie et pleine d'entrain, qui le conduit dans les rues d'Hiroshima jusqu'au bord de la mer. Comment s'emparer d'un tel lieu, d'un tel événement, d'un tel mot comme Hiroshima ?
De manière modeste, je pense. Je sais pas, pour moi, c'était assez simple parce que c'est une ville que je connais très très bien. Et du coup, d'une certaine manière, j'ai voulu faire un film sur Hiroshima que je connaissais moi. Donc c'est un film qui est, c'est un portrait de mon Hiroshima personnel, de sa géographie, de son histoire. C'est-à-dire, ce qui m'a le plus touché dans son histoire, c'est les témoignages des survivants. C'est l'élément dans lequel je suis, qui m'a permis de rentrer dans la catastrophe d'Hiroshima. Et ensuite, c'est une traversée des espaces que j'aime beaucoup, ou des typologies de, les personnages sont pas des portraits de gens que j'ai connus, mais de gens que je pourrais connaître, ou avec qui, voilà, je pourrais être en sympathie. C'est presque une description, ouais, c'est une description de mon Hiroshima. Et donc, il y a un endroit de modestie, c'est pas, je pense qu'il est très difficile de se confronter à l'histoire avec un grand H. Et à l'histoire de Hiroshima en particulier.
Oui, je le rappelle, c'était il y a 72 ans, en 1945, le 6 août était lâchée la première bombe atomique, et c'est ce que raconte aussi la toute première séquence de votre film. Séquence tout à fait incroyable, puisqu'elle dure plusieurs minutes, et puis surtout elle commence avant même le générique en fait, et elle commence sous la forme de ce témoignage d'une survivante d'Hiroshima, donc on plonge dans cette dimension historique tout de suite, mais sous la forme effectivement personnelle du récit, du souvenir.
Oui, c'est. Je voulais que le film commence par comme ça, un témoignage d'une survivante, Parce que, en tout cas, moi, ce qui m'émeut beaucoup dans les témoignages de survivants de Hiroshima, mais on pourrait parler aussi de la littérature des camps, enfin, de tous les témoignages, en tout cas, des gens qui ont survécu à la violence, c'est que ça passe par le jeu. C'est une somme de petites horreurs qu'ils traversent, mais auxquelles on peut s'identifier. Enfin, si j'avais été là, qu'est-ce que j'aurais fait, etc. Et c'est, en tout cas, pour moi, une manière de me projeter dans l'histoire beaucoup plus intime et presque heurtante. Enfin, en tout cas, en termes d'émotion, ça fonctionne beaucoup plus pour moi qu'un livre d'histoire ou une muséographie qui va me donner le contexte historique, les raisons de, par exemple, du bombardement d'Hiroshima, qui me donne un savoir que j'ai besoin pour comprendre les survivants, les témoignages. Mais c'est comme ces témoignages-là qui me font rentrer en général dans l'histoire. Et du coup, je voulais que le film commence par ça, c'est-à-dire rentrer dans Hiroshima par ce témoignage et voir comment, dans sa longueur, tel qu'il est donné aussi, ça permet de voir comment, en tant que spectateur ou les protagonistes du film, comment ce témoignage va travailler en écho, rester, hanter le film, disparaître à un moment, parce qu'on l'oublie aussi.
Voilà. C'est un film qui commence par ce témoignage, c'est un témoignage du passé, et effectivement, la suite du film se déroule dans le présent, dans les rues d'Hiroshima, et on voit à quel point ce présent peut être contaminé, parasité, hanté par le passé, mais en même temps aussi sublimé par ce passé. C'est-à-dire que c'est précisément la mémoire, même si c'est la mémoire d'un événement tragique, qui rend encore plus vivants les personnages, qui rend ces rues encore plus joyeuses. Il y a ce parc de la paix qui fourmille aussi de vie, de jeu, de paroles. Et finalement, il y a ce passé qui est beaucoup moins contraignant, beaucoup moins obscur qu'on ne peut le percevoir au début du film.
Oui, c'est en tout cas il y a un endroit où là, pareil, il y a peut-être un endroit de ma projection vis-à-vis de cette géographie de la destruction. C'est on peut traverser une ville comme Hiroshima, mais on pourrait parler de toutes les villes ou les endroits où il y a eu des guerres. En tout cas, Hiroshima, on peut voir une ville très contemporaine. Voilà, avec les plaisirs de la vie contemporaine, les défauts de la vie contemporaine, et rester à ce niveau-là, on peut même juste aller voir le musée, et pourtant ne pas voir que la ville, en tout cas que la catastrophe, elle est au-delà du musée. On peut aussi, à l'inverse, être tellement heurté par l'histoire que l'on ne voit plus que la destruction dans cette ville. C'est une ville de la destruction. Et la troisième voie, qui est la voie intermédiaire, d'être dans une ville entre deux, où, effectivement, la vie devient encore plus vivante parce qu'on est conscient de la destruction et de la mort qui a, enfin voilà, de cette ville carbonisée. Et en tout cas, pour moi, c'est ce qui fait la richesse de cette ville, c'est cet entre-deux-là. Et au-delà de la ville, c'est aussi, moi, ce que m'apprend, en tout cas, de travailler sur les catastrophes et Hiroshima en particulier, ça m'a rendu, moi, ma vie plus vivante, plus présente, je dirais peut-être plus présente, d'être plus présent au monde. C'est l'endroit où, en tout cas, la mémoire peut nous apprendre quelque chose.
Vous aviez déjà réalisé, Jean-Gabriel Perriot, en 2006, le court-métrage 200 000 fantômes, où on voyait déjà des images d'Hiroshima, notamment le dôme de Genbanku, seul bâtiment à rester debout après la bombe. Et puis vous avez aussi réalisé en 2015, c'était votre premier long métrage, Une jeunesse allemande, c'était sur les premières années de la fraction Armée Rouge. Vous êtes attaché à rendre vivants ces moments passés et aussi des moments tragiques. Plutôt, pourquoi cet attachement aussi à des moments plus tragiques, plutôt violents en fait de l'histoire, même très violents de l'histoire, carrément violents?
Parce que je les comprends pas. Faire un film, c'est un peu l'obligation de travailler, en fait, de se confronter à un sujet, non plus uniquement en tant que lecteur ou spectateur de ça, mais d'un coup, je ne saurais pas peut-être l'expliquer différemment, que d'un coup, dans des hasards de lecture ou des hasards de film ou un article dans la presse, d'un coup, un événement va m'arrêter, que ça soit la fraction Armée Rouge ou Hiroshima à partir d'un livre. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Et en général, là, il y a le début d'un travail qui va souvent devenir un film. Il y a même Hiroshima, aujourd'hui, j'ai encore du mal à le comprendre, par exemple. Enfin, la raison très factuelle de ce pourquoi on envoyait la bombe. Il y a plusieurs raisons qui sont soi-disant plus ou moins valables les unes que les autres. Mais dans le fond, il y a une gratuité du geste qui m'échappera toujours et qui fait qu'il y a un endroit d'attachement pour moi, ou d'entêtement en tout cas, à travailler sur certaines parties du passé. Et souvent, c'est des moments les plus violents. Il y a quelque chose qui m'échappe dans la violence en général.
Quatre fois au musée à Hiroshima, j'ai regardé les gens. J'ai regardé moi-même, pensivement, le fer brûlé, le fer brisé, le fer devenu vulnérable comme la chair. J'ai vu des capsules en bouquet, qui y aurait pensé? Des peaux humaines, flottantes, survivantes, encore dans la fraîcheur de leur souffrance. Des pierres brûlées, des pierres éclatées. Des chevelures anonymes que les femmes de Hiroshima retrouvaient tout entières tombées le matin au réveil. J'ai eu chaud, place de la paix. 10 000 degrés sur la place de la paix. Je le sais. La température du soleil sur la place de la paix. Comment l'ignorer? L'herbe, c'est bien simple.
Tu n'as rien vu à Hiroshima. Rien.
Jean-Gabriel Perriot, on pense quand on entend Hiroshima aussi au film d'Alain René, qui est sorti en 1959 avec cette phrase culte « Tu n'as rien vu à Hiroshima » qui va avec ce que vous venez d'employer comme terme d'inexplicable. Il y a quelque chose d'inexplicable à Hiroshima dans la gratuité de ce geste. En filmant ces rues à Hiroshima, en les regardant, quand on est spectateur de votre film, on est en attente d'une explication, d'essayer de voir, d'imaginer ce qui s'est passé. Est-ce que vous aviez en tête aussi toute cette absence d'explication, de description qu'on pouvait donner de cet événement?
Oui, mais c'est une lacune qui est propre à Hiroshima, mais à tout événement catastrophique, et c'est où l'endroit où Duras a été là. Sans connaître particulièrement Hiroshima, elle ne s'est pas rendue à Hiroshima et elle a écrit un des plus beaux textes du monde et sur Hiroshima et sur les catastrophes en général. C'est-à-dire cette chose qui fait que on ne pourra jamais voir, au sens où on n'aura jamais l'expérience de la catastrophe puisque nous n'étions pas là. Donc on peut aller au musée, on peut voir les objets déposés, on peut marcher dans les rues, on peut imaginer la chaleur. Mais tout ça n'est même pas le début d'une expérience de la catastrophe. On sera toujours survivants, nous, de cette histoire-là. Et du coup, ce texte est vraiment magnifique. Et en tout cas, il ne me guide pas, mais en tout cas, je pense que tous les gens qui travaillent sur la catastrophe, il y a cette idée qu'il est impossible de la retranscrire, de l'écrire, de la donner dans un film. Et il ne nous reste que des traces. On peut travailler les traces de cette histoire-là.
C'est la question que j'allais vous poser, Jean-Gabriel Perriot. Comment on montre quelque chose qui est proprement lacunaire, absent, invisible? Comment vous avez traqué ces traces de cet événement? Et quelles sont les traces que vous avez voulu mettre en avant?
Dans le film, ça passe, mais en général aussi, ça passe beaucoup par la parole. Justement, par le témoignage des survivants au début du film, ou les savoirs qui sont donnés par Michiko, qui raconte plusieurs petits éléments de l'histoire de Hiroshima, ou le restaurateur que l'on rencontre à un moment et qui parle lui aussi de la guerre. C'est peut-être, on peut faire une petite somme, enfin une somme comme ça de petits moments de la catastrophe et de ce qu'il a suivi, pour essayer d'avoir un petit portrait un peu kaléidoscopique, de tourner autour en tout cas, et de donner quelques éléments qui permettent en tout cas aux spectateurs de se projeter un peu dans ce qu'il voit, en sachant un petit peu plus que si on lui montrait des images seules, par exemple, ou de montrer une ruine. On a quand même besoin d'un peu de savoir pour réussir à voir.
Et pourquoi pas la forme du documentaire, tout simplement, sur Hiroshima? D'ailleurs, c'est très intéressant parce que le personnage principal, Akihiro, réalise des documentaires. Il vient réaliser à Hiroshima un documentaire sur les survivants de la bombe atomique. Et d'ailleurs, il a une réplique assez cinglante à l'égard de lui-même qui réalise des documentaires. Il le voit comme un échec. Il n'a pas réussi à réaliser des films de fiction, ce qui est une sorte de mise en abîme de ce film aussi, qui a à la fois une dimension documentaire et en même temps qui pointe aussi les limites du documentaire sur une catastrophe pour plutôt préférer la forme fictionnelle.
Bah en fait, la fiction, elle a cette qualité, mais comme le documentaire en a d'autres, hein, en tout cas quand on travaille l'histoire, de pouvoir questionner les échos d'une histoire. ou comment une histoire, là on parle d'Hiroshima, donc il y a 72 ans, mais qu'est-ce qui nous reste d'Hiroshima aujourd'hui, 72 ans après? Et en tout cas, pour moi, dans ma pratique, ça s'incarne plutôt dans des corps et des personnages qui peuvent en discuter, on peut les voir éprouver quelque chose, on peut se projeter comme si nous, on était dans Hiroshima et comment on va réagir avec Hiroshima, alors que le documentaire est quand même, même si c'est plus ou moins vrai, mais si je voulais faire un film sur l'événement lui-même d'Hiroshima, j'irais sur du documentaire. Mais là, ce qui m'intéressait, c'est de savoir qu'est-ce qu'il le reste d'Hiroshima aujourd'hui, et spontanément, c'est plus dans l'ordre d'un personnage et de la fiction. Ce qu'on voit aussi dans Hiroshima, mon amour, c'est un film qui se pose la question de comment des survivants
continuent à vivre
avec cette histoire-là, que ce soit l'étrangère ou le japonais. Ce type de question passe plus facilement par la fiction, même s'il y a des documentaires qui sont des documentaires aussi sur la trace, beaucoup plus, qui peuvent être aussi très philosophiques, mais en tout cas, moi, en tant que réalisateur, c'est des films que je ne sais pas faire ou que je ne ferai pas.
Il y a aussi cette autre réplique de Akihiro sur Hiroshima qui déclare à Michiko « Cette histoire ne se raconte plus. En France, tout le monde s'en fout d'Hiroshima. On en parle pour se donner bonne conscience. » Et effectivement, il y a souvent ce rapport à l'histoire qui peut être de l'ordre soit du fantôme, quelque chose qui hante, qui pèse, soit quelque chose de l'ordre de la culpabilité. Et finalement, on en parle un petit peu sous la forme théorique du savoir ou sous la forme de on en parle pour en parler parce qu'il faut bien en dire quelque chose de cette histoire et se dire que c'est clos d'une certaine manière. Et vous essayez d'éviter ces deux écueils-là de ce rapport à l'histoire.
Oui, parce que l'histoire, en tout cas la transmission de l'histoire, elle est dans un entre-deux. Pour moi, on n'est pas... Faut éviter en tout cas l'écueil de la leçon d'histoire. On n'est plus à l'école, ou en tout cas l'école, elle est assez peu efficace. Et faut éviter le devoir de mémoire. Ça, c'est en tout cas pour moi, c'est totalement inefficace. Et du coup, faut trouver des moyens de malgré tout, en tout cas, ramener Hiroshima dans l'espace public ici en France, qui est, ou comme le dit le personnage, parce que là, c'est vraiment une de mes assertions, on s'en fout de l'histoire d'Hiroshima, on s'en est toujours foutu. C'est quand même les méchants qui perdent à la fin, donc on va pas s'y intéresser. Et puis, en tant que pays nucléaire, on n'a pas besoin de savoir, on ne veut pas savoir ce qui s'est passé à Hiroshima, parce qu'on peut faire la même chose. Mais en tout cas, il y a peut-être un endroit qui m'a décidé de faire ce film, ou en tout cas une des raisons pour lesquelles je peux continuer à travailler cette question d'Hiroshima, c'est que je vais beaucoup en classe chez les scolaires montrer 200 000 fantômes. Et évidemment, on n'apprend rien à l'école. Ça dure 2 secondes, hein, c'est à la fin de la guerre. En général, les profs sont en bout de programme, c'est bientôt le bac, il faut se dépêcher. Donc on clôt la Seconde Guerre mondiale par Hiroshima en 5 minutes, et puis basta. Mais je suis allé présenter il y a 2 ans 200 000 fantômes à un lycée de centre-ville, des terminales. Et la première question qui m'a été posée par une jeune fille, c'est de me dire, c'est bizarre, j'ai repéré que c'était Hiroshima parce que c'est écrit dans le film, mais qu'est-ce qui s'est passé à Hiroshima? Et je comprends pas, en fait. Pas contre elle, parce qu'on ne lui a pas appris, hein, mais qu'un événement aussi important comme Hiroshima ne soit plus appris, c'est comme si, je sais pas, la Shoah n'était plus enseignée. Enfin, c'est un événement qui est juste terrifiant et qui est encore actif. Enfin, on le voit entre les engueulades du jour, entre la Corée du Nord et les USA. Tout ça peut reprendre très très vite. Et donc, au-delà de la mémoire de Hiroshima, c'est aussi une mémoire qui est nécessaire parce que les bombes nucléaires sont toujours existantes et qu'à un moment, il faut continuer à se battre contre cette arme. Il faut qu'elle disparaisse. Donc, Hiroshima est aussi un outil pour ramener ça. Et là, il faut le ramener.
Il y a tout cet entremêlement entre le passé et le présent, entre la mémoire et l'oubli, entre l'histoire et la mémoire, justement, ne pas faire une leçon d'histoire ni un devoir de mémoire, mais juste remémorer pour irriguer le présent. Est-ce qu'entre ces deux, entre le passé et le présent, finalement, est-ce qu'entre cette réconciliation entre ces deux moments, est-ce qu'il faut trancher? Parce qu'on a l'impression que votre film erre dans cet entre-deux, en fait, entre le passé et le présent. Chaque lieu d'Hiroshima, jusqu'à l'excursion au bord de la mer des deux personnages, est hanté par le présent, mais finalement, ça se fait sous la forme d'une réconciliation au fur et à mesure, jusqu'à cette fête annuelle des morts, au bon. Et finalement, on a cette réconciliation qui ne demande pas de trancher entre le passé et le présent.
Oui, parce que elle peut avoir lieu que dans l'espace de l'intimité. Elle sera pour tout le monde différente, cette réconciliation, sous la manière dont on gère le temps. Elle n'est pas réglée, elle est, elle, elle est, Elle appartient à chacun. Donc là, on voit une résolution parce qu'il y a un personnage principal qui est Akihiro, qui fait plusieurs expériences de la ville. Et à un moment, il trouve justement cette équation. C'est un personnage qui, au début du film, est très insatisfait. Il est très parisien, dans le mauvais sens du terme. Enfin, il est toujours en train de se plaindre, ce personnage. Mais petit à petit, grâce à Michiko, grâce à vos rencontres, avec la petite famille, la fête des morts, il trouve en tout cas le moyen de résoudre cette contradiction entre l'obligation qu'on a de vivre et cette chose qui est ni de l'oubli du passé, mais comment on vit avec. Enfin, il arrive à le résoudre, en tout cas, c'est ce que montre le film. Mais au-delà du film, ça appartient à chacun de nous de trouver la manière de nous enraciner, en tout cas.
Oui, il y a effectivement une dimension identitaire, quelque chose de l'ordre de l'identité dans votre film, Jean-Gabriel Perriot. À la fin, en tout cas dans la troisième partie de ce film, les deux personnages, Michiko et Akihiro, sont donc au bord de la mer et rencontrent un grand-père et son petit-fils. Et effectivement, cette famille est une famille un petit peu déconstruite. Les parents de l'enfant ne sont pas là. Il y a toute une identité à inventer. Et on se rend compte que cette rencontre entre les deux personnages principaux et cette famille, ils forment eux aussi, pendant une soirée, le temps d'une soirée, une nuit, une famille à eux. Et il y a cette question à la fois de l'identité et de la filiation qui se dégage au-delà justement du passé ou grâce au passé.
Oui, c'est ce qui leur permet de faire famille. Enfin, une famille très éphémère, hein, mais la rencontre est possible. C'est pas grand-chose que ce que ça apprend. Ce que Hiroshima apprend au personnage, c'est pas grand-chose, mais c'est d'un coup le fait d'être un peu présent au monde, il est disponible pour la rencontre. Et ces personnages, ils ont tous leur instabilité, quoi, pour des raisons différentes les uns des autres. Mais en tout cas, ils arrivent à faire lien malgré tout. Voilà. Et c'est pas grand-chose, hein, c'est une soirée, un feu d'artifice, on va danser. Et tout ça est très simple, mais tout ça est déjà beaucoup. En tout cas, pour chacun des personnages, c'est déjà beaucoup.
S.O.S.
S.O.S. Harry.
Vous avez parlé, Jean-Gabriel Perriot, de cette dimension fictionnelle de votre film qui était investie dans les personnages et dans le récit, dans ce que vous vouliez construire de cette relation entre les personnages. Quel personnage avez-vous voulu créer ?
Pour chacun d'entre eux ou ensemble ?
Ensemble ou pour chacun d'entre eux. Il y a deux personnages principaux qui, effectivement, il y a un personnage principal notamment qui est Akihiro et qui évolue au fur et à mesure du film. Mais chacun a une dimension particulière.
Ouais, j'aurais du mal à répondre. Il y a peut-être un endroit, parce que peut-être, mais je n'en suis pas très sûr, mais sur lequel je ne me suis pas interrogé, un peu dans cette polyphonie, il y a un autoportrait où il y a une sensibilité qui m'appartient, qui doit se retrouver dans chacun, enfin en tout cas dans le groupe de personnages. Une espèce il y a quelque chose comme ça qui jouerait sur mon propre intimité, du coup je ne saurais pas comment l'exprimer. Mais il y a, en tout cas, quand j'ai écrit le film, il n'y avait rien de volontariste dans tel personnage va représenter ça ou ça, par exemple, ou va agir de telle manière. Ça s'écrit très simplement avec des personnages très simples, qui justement ne nécessitaient pas d'explications.
Ou de traits de caractère, ou de stéréotypes.
Ouais, moi ça me... Je vais souvent au Japon et c'est par exemple des situations, celles que décrit le film, qui me sont déjà arrivées. D'être invité par des gens, de me retrouver à passer des soirées ou les fêtes d'Obon. J'en ai passé deux fois la fête d'Obon avec une famille, dans une famille autour de Kyoto que je connaissais pas. Et de passer la soirée avec eux et d'être au sein de la famille avec eux et de passer, voilà, une très très bonne soirée. Il y a aussi un naturel dans le film qui est très japonais, en tout cas, dont j'ai fait l'expérience. De ce type de situation qui pour nous serait un peu improbable mais qui sont assez simples ou qui peuvent advenir au Japon.
Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous est apparu au montage? C'est aussi une autre histoire de récit, justement, si vous n'aviez pas d'idées préconçues sur ces personnages, de stéréotypes. Qu'est-ce qui vous est apparu au fur et à mesure à la fois de la réalisation de ce film au moment du tournage mais aussi au moment du montage? Est-ce qu'il y a une autre histoire qui vous est apparue, une distribution des relations particulières entre les personnages qui ne vous avaient pas autant frappé. Est-ce qu'il y a des choses qui sont apparues dans cette histoire-là, sur une autre histoire qui est Hiroshima ?
Oui, il y a quelque chose qui déborde Hiroshima, mais ça s'est trouvé dès le tournage. Au montage, j'ai pas découvert grand chose, mais en tout cas, au tournage, c'est ce qui est toujours très chouette avec la fiction. De toute façon, c'est d'écrire des personnages. Et là, même s'il y avait quand même pas mal de place laissée libre pas à l'interprétation, mais les comédiens pouvaient un peu improviser. De toute façon, la plupart étaient amateurs, donc il fallait que je leur laisse cette liberté-là. Mais ce qui était beau au tournage, c'est qu'en fait, les personnages, donc ils avaient quand même leur histoire propre à chacun. Mais malgré tout, les comédiens ont fait corps pendant le tournage et ça ressemblait à une petite famille. Et ça, c'était très agréable à voir, parce que c'est toujours un peu un pari d'écrire une fiction et de voir après comment ça s'incarne. Et qu'il y ait quand même cette ambiance-là entre eux. Humainement, entre les comédiens, et ce qui du coup faisait qu'on pouvait le retrouver après dans le film. Alors que c'est toujours une prise de risque, c'est plus facile d'écrire que les personnages s'entendent bien que de le réaliser. Enfin, en tout cas, si les comédiens ne s'entendent pas, ça va être difficile. Mais il y avait en tout cas, j'étais content que l'ambiance et cette douceur-là, cette sérénité-là, s'est trouvée déjà dès le tournage. Et, et il fallait absolument cette qualité-là pour que le film... Je voulais cette douceur-là dans le film.
C'est vrai que c'est un film très doux, alors même que le point de départ est une tragédie, est une catastrophe. C'est un film très doux, très serein, très poétique. Ces déambulations et ces discussions entre Akihiro et Michiko nous mènent du côté de la réinterprétation joyeuse, on va dire, d'un événement triste. Et c'est là où on retrouve cette dimension, cette balance entre le côté morbide de cet événement, le côté tragique, et en même temps ce côté, non pas dépassement, mais effectivement relecture, ressaisie, beaucoup plus joyeuse.
Oui, mais la chose que j'avais trouvée étonnante quand j'avais entendu les premiers survivants à Hiroshima, ou quand je les avais lus, bon, ils s'adressent souvent à des enfants, donc ils gardent un peu cette habitude, mais la plupart d'entre eux finissent par le fait que ce qu'ils veulent apprendre aux enfants, c'est non pas, ils veulent pas les effrayer avec cette histoire-là, mais leur faire prendre conscience que le présent est très précieux, parce que ça peut s'arrêter du jour au lendemain, qu'eux, ils ont pas, d'un coup, leur vie s'est arrêtée, en fait, avec le bombardement, et ils apprennent donc aux enfants qu'ils doivent faire attention, en fait, au quotidien, à la vie, etc. Et c'est pas pour être de manière très béate, etc., mais c'est aussi parce qu'on a besoin d'énergie pour lutter, qui est la deuxième étape, là, contre le nucléaire. Mais du coup, ils insistent toujours sur, comme ça, le fait de profiter de la vie. Et ça s'inscrit, profiter de la vie, évidemment, pour eux, mais c'est pas aller au supermarché ou avoir une carte bleue, mais c'est d'un coup trouver un paysage beau, être bien, avec des amis, enfin des choses très petites qui paraissent anodines, mais quand on les a plus, en fait, on se rend compte qu'elles étaient vitales. Et du coup, c'est cette modestie de ce que serait une vie réussie, en tout cas qu'ils m'ont appris, se retrouve dans le film. Ça ne peut s'ancrer que dans des petites choses. Et c'est quand d'un coup on arrive à prendre conscience de la richesse de ces petites choses que quelque chose a bougé, quoi. Ou peut-être que c'est peut-être là que se trahit le fait qu'on s'est enraciné quelque part ou qu'on est un peu plus serein.
Il y a plein de petits moments dans votre film, Jean-Gabriel Perriot, des moments où Michiko trouve des nouveaux habits, où Akihiro et Michiko mangent dans un restaurant, où ils se promènent dans la rue, où ils pêchent. Ils font de la pêche avec le grand-père et son petit-fils. C'est plein de petits moments où finalement, dans ce rapport à la temporalité, il y a quelque chose de l'ordre de la suspension du temps. Il y a quelque chose qui s'arrête et il y a... un dévoilement, en tout cas à la fin du film, il y a quelque chose quand même qui se passe dans votre film. Et sans dire de quoi il s'agit, je trouve qu'en tout cas, on peut y penser en termes de suspension, de réflexion, de s'arrêter à un moment donné. Est-ce que c'est ce que vous avez voulu créer comme sensation pour le spectateur? Non pas qu'il se penche uniquement sur le passé, non pas qu'il soit uniquement dans le présent, mais juste qu'il soit suspendu à ces petits moments du quotidien.
Oui, parce que c'est des moments, enfin, c'est un film qui travaille par écho, c'est-à-dire par les résonances dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire comment à partir de cette expérience qu'ils font, enfin, en tout cas, ce que fait Akihiro de ce témoignage, de la douleur de ce témoignage, comment d'un coup, comment ça respire, comment ça résonne en lui, et c'est très difficilement explicable comment ça résonne, une expérience, hein, que ça soit celle-là ou une autre. Et là, ça passe par des choses de l'ordre de la respiration, du temps qu'on prend, des moments dont on ne sait pas si on regarde un paysage parce que ce paysage est beau ou parce que d'un coup, c'est aussi un espace de pensée et de retour sur la journée ou sur ce qui va venir. C'est important, le temps. Enfin, la lenteur et ces petits moments de respiration. Le film est un peu comme une respiration. Ça s'accélère, ça radoucit, ça se raccélère, ça radoucit. Il y a un rythme que j'avais besoin de ces micro-changements en permanence, mais qui restent toujours un peu doux, mais où il y a des qualités de temps qui évoluent pour qu'on les sente.
Merci beaucoup Jean-Gabriel Perriot d'être venu nous présenter Lumière d'été, votre film qui sort sur les écrans ce mercredi, donc le 16 août, et en partenariat avec France Culture.
France Culture, la grande table d'été,